Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Graphite 94.9. Je suis Stéphane et je suis en studio avec Félix, Paul, Boris, Anouk et Sacha. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors ce matin, nous sommes sur Graphite avec des étudiantes et étudiants de l'UTC et de l'UTT pour présenter les résultats d'un cours d'intersemestre, donc une semaine que l'on a passée ensemble, autour de la thématique low-techisation et numérique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on va évidemment pas rentrer dans les détails de tout ce qu'on a fait cette semaine maintenant. Simplement, je peux vous donner quelques pistes. L'idée est de produire des projets, d'imaginer des projets en relation avec trois valeurs qui sont la responsabilité, la convivialité et la soutenabilité. La responsabilité, c'est l'idée de considérer les humains qui sont derrière les objets que l'on crée, donc que ce soit au niveau de la fabrication, de l'utilisation, du recyclage, etc., ce que l'on appelle le cycle de vie. C'est la convivialité, quant à elle, c'est de se préoccuper de la relation entre les hommes et les objets qu'ils manipulent, par exemple en termes d'autonomie, de dépendance vis-à-vis de ces objets, donc possibilité de les réparer, par exemple. Et puis enfin, bien sûr, le troisième impact, soutenabilité. On est un peu plus au fait peut-être de ce concept, donc de se préoccuper des impacts environnementaux, une sorte de d'abord ne pas nuire, un serment d'Hippocrate des ingénieurs ou un serment de Grosundijk ou voilà, quelque chose comme ça. Alors, je vais passer la main aux étudiants à présent, qui vont donc vous présenter le projet Water DC. Leur idée un peu originale est de voir si l'on peut immerger le data center de l'UTC dans le canal de l'Oise. Donc, si par hasard vous voyez des perturbations sur le réseau de l'UTC pendant ces prochains jours, c'est peut-être qu'ils auront fait quelques tests. Pourquoi ce projet un peu étrange ? Eh bien, il est parti notamment de l'idée d'essayer d'imaginer des projets alternatifs à l'extension du canal Seine Nord Europe qui est en cours qui est en projet actuellement, projet qui pourrait voir ou ne pas voir le jour. Eh bien, une des façons peut-être pour qu'il ne voit pas le jour serait que l'on ait des propositions plus intéressantes, plus originales, plus responsables, soutenables et conviviales à proposer. Alors, un des objectifs un petit peu ambitieux pour des petits travaux d'une semaine, mais peut-être néanmoins que cette petite contribution pourra donner des idées à quelques-uns ou quelques-unes. Félix, est-ce que c'est OK pour attaquer pour toi la présentation de votre projet, de votre travail de cette semaine ?
Oui, c'est bon, merci beaucoup. Alors, pour continuer un peu à contextualiser, parce que Stéphane a déjà bien commencé, le canal Seine Nord Europe, l'idée c'est d'agrandir le canal qui existe déjà entre Compiègne et Cambrai. Actuellement, ce canal existe et peut laisser passer des bateaux de petite, faible envergure. L'idée c'est de l'agrandir et de l'élargir pour que des porte-conteneurs puissent passer. Et donc, après les travaux, il devrait mesurer environ 106 km de long et 54 mètres de large. Il est en majorité financé par l'Union européenne, par la France, et sa construction est estimée à environ 5 milliards de dollars. Cela pose plusieurs problèmes sur le plan environnemental. Déjà, la pollution pendant les travaux et a posteriori, avec les flux de marchandises qui s'intensifieraient, le bétonnage des berges, la destruction de certains ponts, et aussi la perte de biodiversité sur les berges et à leur proximité. Donc nous nous sommes demandé, à la place de ce projet de canal, qu'est-ce que nous pourrions faire dans le cadre d'un projet low-tech et en utilisant l'Oise. Et nous sommes parvenus à la conclusion que immerger les data centers et le projet Water DC, c'était une bonne solution pour les refroidir. Et ça nous permettait d'économiser de l'argent et de l'énergie. Et je vais laisser passer la parole à Boris.
Alors merci Félix. Nous allons maintenant illustrer nos propos en vous plongeant dans les détails de notre projet. La genèse prend place dans la salle serveur de l'UTC où la décision est prise d'immerger le data center dans l'Oise. Pour rappel, cela répond à deux exigences, se servir de la température du canal et du courant pour refroidir naturellement le data center et se servir uniquement de l'énergie hydraulique pour l'alimenter. Pour arriver à nos fins, et sur le modèle de Microsoft, nous créons une cuve en acier hermétique et scellée contenant les serveurs reliés électriquement à notre système de production d'énergie hydraulique. Les étapes de mise en place seront orchestrées par une société que nous appelons la société X. Celle-ci s'occupe de récupérer les serveurs de l'UTC, de les mettre dans la cuve et, pour une meilleure conduction thermique, servant le refroidissement, de pomper l'oxygène de celle-ci et de le remplacer par de l'azote. Une fois ce travail réalisé, la cuve est transportée jusqu'à son emplacement prévu dans l'Oise, où des câbles ont été tirés et reliés jusqu'à l'UTC pour la communication avec les serveurs. Ensuite, les serveurs sont allumés, les systèmes de refroidissement vérifiés et l'étanchéité confirmée. Finalement, à l'aide d'un bras motorisé, la société X descend précautionneusement la cuve dans l'Oise, où celle-ci ne sera pas remontée avant 5 ans, date de la prochaine maintenance prévue. Quelques détails supplémentaires, des onduleurs ont été placés avec les serveurs pour prendre le relais en cas de panne ou de non-fonctionnement de notre système de production d'énergie hydraulique. Voilà pour la description concrète et imagée de notre projet. Je passe maintenant la parole à Paul.
Merci bien, Boris. Donc notre système permet donc à une entité, qu'elle soit particulière ou professionnelle, de refroidir ses data centers de manière naturelle, en réduisant sa consommation électrique et carbone, pour arriver donc à une neutralité carbone. Les cuves, remplies d'azote, permettent la conduction thermique entre les milieux extérieurs et intérieurs, sans altérer le data center. Ce projet repose sur les trois valeurs fondamentales que Stéphane a évoquées tout à l'heure, donc la convivialité, la soutenabilité et la responsabilité. En favorisant l'autonomie, notre solution s'intègre harmonieusement avec la nature pour répondre aux besoins énergétiques de l'entité. Nous mettons l'accent sur une utilisation responsable des ressources naturelles, minimisant ainsi la consommation excessive d'énergie et contribuant à la préservation de l'environnement. À travers cette liberté d'autosuffisance, notre projet s'engage à réduire les émissions de carbone et à promouvoir des solutions technologiques respectueuses de l'environnement. Pour concrétiser ces valeurs, nous activons des leviers stratégiques, tels que alerter et optimisation. En fermant progressivement les systèmes classiques de data center, nous incitons à repenser la manière dont ces centres sont conçus, exploités. Nous cherchons à optimiser non seulement l'efficacité énergétique, mais également l'espace physique, les coûts financiers et la gestion globale des ressources. Cependant, comme tout projet novateur, le nôtre génère des interrogations et soulève des tensions. Nous envisageons une possible augmentation du nombre de data centers immergés à l'avenir, créant ainsi une tension entre les avantages écologiques et l'impact visuel et fonctionnel du canal. L'amélioration de la maintenance des serveurs peut potentiellement aussi augmenter la consommation des données, créant une tension entre les avantages écologiques et l'augmentation de la demande numérique.
For you, I'm empty hanging and I'm filled blue, and I'm gonna dream till the day that I die. Shut bubble down my throat. I'm empty hiding and I'm all alone, but I'm gonna dream till the day that I die. Alka-Seltzer and my loaded drinks. I'm crying out for your help to stop me from me sinking. No sex, drugs, and rock and roll. My man had left me on the furnace gone, so I'll keep on drinking till the day that I die.
Drink. I'm crying out for your help. Rebonjour, vous êtes sur 94.9 FM sur Graphite. Je suis avec des étudiants et étudiantes de l'UTC et de l'UTT. Je suis Stéphane et on présente les résultats de travaux menés ce semestre dans le cadre d'un cours low-techisation et numérique. On vient d'entendre Drink de Dazimae, une musique libre sous licence CC by NC ND disponible sur Dogmazic. Et donc le projet qui était présenté est le projet Water DC, mettre le data center de l'UTC dans le canal et tout feu et tout en continuant à faire en sorte qu'il fonctionne. Et donc Anouk va nous présenter la suite de ce projet. Tu as la main, Anouk.
Merci Stéphane. Nous allons maintenant procéder à une étape d'auto-évaluation de notre projet. L'intérêt de cette étape est de réaliser une autocritique pour identifier les possibles problèmes et interrogations. Un outil communément utilisé pour l'évaluation est la recherche d'effets rebonds. L'effet rebond, également appelé le paradoxe de Jevons, est un phénomène observé lorsque l'utilisation d'une technologie plus efficace énergétiquement ne conduit pas aux économies énergétiques attendues et aboutissent parfois même à des surconsommations à cause d'une adaptation des comportements. On distingue deux types d'effets rebonds. L'effet rebond direct consiste à utiliser davantage un équipement sous prétexte qu'il consomme moins d'énergie qu'avant ou entraîner une pollution ailleurs. L'effet rebond indirect consiste à financer une activité polluante avec les économies réalisées grâce à un équipement moins coûteux en énergie. Dans notre cas, nous avons identifié les effets rebonds directs suivants. Premièrement, nous pouvons penser que la cuve utilisée pour stocker le data center polluera l'eau du canal, ce qui sera nocif pour la faune et la flore environnante, mais également pour l'utilisation humaine de l'eau du canal. Une solution serait de réaliser une étude poussée sur des matériaux qui n'auraient pas d'effet négatif sur l'environnement. Ensuite, la forme de la cuve dans l'eau risque de perturber la biodiversité dans l'Oise. Cependant, d'après Microsoft, qui a déjà réalisé ce genre d'expérience, la faune et la flore se sont très bien adaptées à la présence des serveurs. Enfin, le trafic fluvial pourrait être perturbé, ce qui conduirait à changer le transport sur l'Oise. Ainsi, au lieu d'utiliser le bateau pour les transports, on utiliserait des voitures et des camions, ce qui engorgera le trafic routier et donc causera plus de pollution dans l'air. La solution serait d'étudier précisément la géométrie du canal et placer la cuve de manière à minimiser ses effets. Aussi, il serait utile de limiter le nombre de serveurs admissibles dans l'Oise. Les effets rebonds indirects que nous avons identifiés sont les suivants. Tout d'abord, les économies réalisées par l'UTC pour refroidir les serveurs permettront à l'UTC d'investir cet argent ailleurs, potentiellement dans une activité polluante. Et deuxièmement, on peut penser que les économies réalisées par l'UTC vont influencer d'autres entreprises à prendre la même mesure. Ainsi, le nombre de serveurs dans l'eau va augmenter et générer de la pollution, que ce soit de la pollution visuelle ou due au relargage de particules de métal issues de la cuve, par exemple. Également, cela pourrait faire monter le niveau de l'eau de l'Oise et l'Oise serait plus sujette à des débordements. Je passe maintenant la parole à Sacha.
Bonjour à tous. Maintenant, je vais vous présenter le deuxième outil que nous avons utilisé, toujours un outil d'autocritique dans le but d'améliorer notre projet, qui est le FOACV, pour analyse des cycles de vie, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la destruction d'un produit ou d'un projet. Donc, alors, qu'est-ce que c'est le FOACV ? Un écran, c'est quelque chose de très simple. C'est un outil qui est vraiment pratique et rapide et qui va un petit peu au-delà des méthodes traditionnelles d'analyse de cycle de vie. Son objectif est d'engager une réflexion sur le projet en termes d'impact environnemental. Donc vous l'aurez donc compris certainement par rapport aux ACV classiques qui vont détailler chaque étape d'un projet, le FOACV va proposer une approche qui est beaucoup plus rapide, mais tout en étant pertinente. Il va donc utiliser des valeurs typiques pour estimer les émissions carbone et ainsi fournir une vision initiale et comparative d'une solution ou d'un projet. Donc dans le cadre de notre exemple avec le data center immergé, Le FOACV nous a permis d'évaluer rapidement les émissions potentielles à chaque étape, de l'extraction des matériaux pour fabriquer la cuve jusqu'à la fin de vie du projet. Et donc cette méthode va offrir une première estimation et permettre de souligner les points clés où des efforts peuvent être concentrés pour réduire l'empreinte carbone du projet. Puisque c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir une empreinte carbone le plus neutre possible. Et donc finalement, nous avons utilisé cet outil pour comparer donc l'impact carbone, comme je vous l'ai dit, de notre solution de cuve contenant le data center immergé, avec la solution initiale qui est donc de conserver les data centers dans des locaux standards à l'air libre, si j'ose dire. Donc si on prend le premier exemple, pour faire court, imaginez qu'on a une cuve immergée avec un data center à l'intérieur. Il va falloir fabriquer cette cuve. Donc tout d'abord, on va avoir les coûts de production de l'acier qui vont avoir un impact carbone. On a ensuite le transport de la cuve ainsi que sa fabrication. On a ensuite également l'équipement du data center. Forcément, il faut une main d'œuvre pour ça, qui va également avoir une émission. Ensuite, on a également l'énergie consommée par le data center. Et là, c'est là où on a un système assez innovant, comme mes camarades l'ont déjà présenté, c'est qu'on va avoir une énergie hydrolienne en parallèle qui va permettre d'avoir une consommation d'énergie écologique, si j'ose dire. On a également la maintenance périodique, tous les 5 ans. Et enfin, on a également le recyclage de la cuve, notamment de l'acier, en fin de vie uniquement donc. Ce qui fait, après calcul, pour vous faire très court, à la fin, un total d'environ 146 tonnes de CO2 annuelles pour cette première solution immergée. On a ensuite un deuxième exemple, qui est donc l'exemple dans les locaux, quand dans une salle de serveurs. Donc on n'aura pas du coup les coûts dont je vous ai parlé initiaux avec la fabrication de la cuve, le transport, etc. Mais on a une consommation d'énergie qui est tout de même là et qui va avoir une empreinte. Et avec une consommation qui est estimée à 240 kWh pendant 25 ans, qui est la durée de vie que nous avons estimée pour ce type de data center, ajoutez à cela 20% supplémentaire de la consommation pour le refroidissement, de la consommation totale. Et enfin, après, nous avons le recyclage. Ce qui fait qu'après calcul, encore une fois pour vous faire court, nous avons un total de 1252 tonnes de CO2 par an. Soit un ratio 8,5 fois plus important que notre solution immergée si on prend ce critère CO2 comme unique indicateur. Donc vous l'aurez compris, notre solution en termes de CO2 apparaît vraiment comme beaucoup plus intéressante. Et je laisse maintenant la parole à Félix pour conclure.
Donc comme nous l'avons vu pendant cette petite présentation, refroidir le data center, ça permettrait d'économiser de l'argent et de l'énergie. Ça permettrait, d'après la pseudo-analyse ACV, de diviser environ par 8 les émissions de gaz à effet de serre de l'UTC. Et a priori, les impacts négatifs pourraient être limités. Et ça, on l'a vu à travers les différents plans d'action possibles, notamment sur l'environnement. Donc ce projet semble convivial, soutenable et surtout responsable. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés et j'espère que nous avons su vous convaincre.
Eh bien, merci à tous les 5. Donc, c'était le projet Water DC, étudié par donc Félix, Paul, Boris, Anouk et Sacha au cours de cette semaine. Donc, vous avez vu des éléments intéressants de l'approche que l'on propose, c'est d'essayer cette autocritique, cette évaluation réflexive que l'on a vue notamment à travers la proposition d'Anouk. On a aussi vu l'idée d'estimation a priori qui nous ont été présentées ici par Sacha. Je précise que l'on a pas mal insisté là sur la neutralité carbone en fonctionnement, comme ça a été dit en introduction. Les étudiants et étudiantes avaient un temps limité, donc devaient prendre un angle, mais on rappellera que le carbone ne doit pas rester le seul angle d'analyse dans le domaine environnemental, et également que le fonctionnement ne doit pas rester la seule étape du cycle de vie à considérer, a fortiori dans le domaine du numérique où l'étape de fabrication est particulièrement significative. Donc la question des ressources utilisées, par exemple, et déterminantes. On a aussi entendu donc un certain nombre d'idées intéressantes liées notamment à l'étape d'analyse de cycle de vie qui a été faite, notamment à travers des études de grosses sociétés comme Microsoft. L'intérêt également l'analyse des différentes solutions pour immerger et puis désimmerger les data centers. Alors là, on a parlé de robotisation. Peut-être que du coup, il y aura dans le futur des études qui iront vers des solutions encore plus low-techisées. Pourquoi pas avec des treuils manuels. Il faudra vérifier aussi probablement les études, notamment de Microsoft. Et puis pourquoi pas, comme ça nous a été suggéré sur Mastodon, s'interroger sur la pertinence même de l'existence des data centers. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Cette présentation vous était faite dans le cadre du cours d'un test semestre low-techisation et numérique avec l'amicale collaboration de Graphit. Vous pouvez retrouver les présentations des étudiants sur le média social Mastodon et puis en ligne sur le site crzt.fr/lonum24h. Pourquoi pas sur les sites de l'UTC, me direz-vous. Eh bien, parce que pour le moment, ils sont donc dans le canal et les branchements ne sont pas terminés.